Bonjour mes frères et mes sœurs. Pensez-vous que l'Ancien Testament ne soit plus valable aujourd'hui? Pensez-vous que seul le Nouveau Testament doit être le guide des chrétiens? Est-ce qu'il y a vraiment une contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau? En fait, qu'est-ce que la Bible? Elle se compose, nous savons, de deux testaments, mais pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens prennent seulement le Nouveau Testament en tant que base de leur religion? Qu'est-ce que c'est qui empêche de croire aux écrits de l'Ancien Testament? L'Ancien Testament a-t-il un Dieu différent du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament avec celles du Nouveau Testament? Autrement dit, pourquoi cette confusion au sein du christianisme aujourd'hui? À l'époque de Christ, il n'y avait pas de questions. Évidemment, il y avait des sectes, des pharisiens, des sadducéens, mais il y avait quand même une seule, pour ainsi dire, religion. Ils avaient des écritures qui constituaient leur Bible à eux, mais il n'y avait pas cette division. Aujourd'hui, nous divisons la Bible, nous divisons les écritures. Aujourd'hui, nous avons des idées différentes selon nos propres compréhensions. Pourquoi? Eh bien, tout ça se contredit, car de la première page de la Bible à la toute dernière page de la Bible, le tout est fondé sur un seul commandement. Ce commandement, c'est l'amour, mais pas l'amour de la façon dont les gens, d'une façon générale, comprennent. L'amour de Dieu qui surpasse tout. L'amour de Dieu qui maintient tout. L'amour de Dieu qui est la base même de toute instruction. Ce genre d'amour est étranger dans l'esprit des gens. Lorsque nous parlons, nous autres, vous et moi, sur le plan physique de l'amour, nous avons en tête quelque chose de tout à fait différent de ce que Dieu a en tête. Lorsque Dieu dit ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est basé sur l'amour. Lorsque Dieu donne des commandements dans le Nouveau Testament, ça, c'est aussi basé sur l'amour. Une fois que vous comprenez ceci, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, et qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Car lorsque vous dites que le Dieu de l'Ancien Testament était cruel, dans ce cas-là, vous en créez deux dieux. Il doit y avoir un Dieu dans l'Ancien Testament qui est cruel, et un autre dans le Nouveau qui est doux comme le Christ. Eh bien, regardez voir ce qui est écrit dans Jean, chapitre 1, Nouveau Testament, Jean, chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ensuite, « Elle était au commencement avec Dieu, toute chose, verset 3, Jean, évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, « Toutes choses ont été créées, par elle, c'est-à-dire par la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alors, regardez voir. Nous croyons que le Nouveau Testament est inspiré de Dieu, nous, entre guillemets. Nous savons que Dieu a inspiré ses paroles. Nous savons que Jean était un apôtre du Christ. Alors, ici, Jean, sous l'inspiration divine, écrit que toutes choses ont été faites par la parole et que la parole était Dieu. Alors, dès ce moment-là, il n'y a plus question de dire, est-ce vraiment, il y a des exceptions? Non, Jean dit toute chose, et c'est bien toute chose. Et maintenant, revenez, Genèse, chapitre 1, verset 1. Maintenant, nous allons entrer dans l'Ancien Testament. Nous lisons au commencement. Bon, on ne peut pas avoir deux commencements. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ici, nous avons le même commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Alors, qui est ce Dieu? Ce Dieu, c'est le même Dieu qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Une fois que vous comprenez cette base, alors nous pourrons discuter du reste. Le Christ, l'agneau doux dont les chrétiens parlent aujourd'hui, c'est le même Christ qui a donné les 10 commandements. C'est le même Dieu C'est le même Christ qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est le même Dieu. Il n'y a pas de différence entre le Christ qui a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte et le Christ qui est venu en tant qu'être humain et qui a donné sa vie pour nous, pour vous et pour moi. Une fois que vous comprenez ceci, et vous, mes frères et mes sœurs, vous devez comprendre, une fois que vous comprenez ceci, dis-je, alors vous aurez une meilleure idée de ce que c'est que l'Ancien Testament, les lois de l'Ancien Testament et les lois du Nouveau Testament. Vous comprendrez ce que c'est que l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de différence, c'est, comme je dis souvent, les deux côtés d'un médaillon. Vous ne pouvez pas en jeter un et garder seulement l'autre. Je disais il y a quelques instants que toutes les lois divines sont fondées sur l'amour. Toutes. Lorsque Dieu vous dit une chose, quel que soit ce commandement divin, ayez en tête que ce commandement divin est fondé sur l'amour. C'est vrai. N'importe quel commandement dans l'Ancien Testament a pour base l'amour divin. N'importe quel commandement dans le Nouveau Testament a pour base l'amour divin. Et c'est le même Dieu. C'est la même nature. Dieu ne change pas. Dans Exode, chapitre 20, maintenant j'entre de nouveau dans l'Ancien Testament, nous avons ce que nous appelons le décalogue, les 10 commandements. Alors, soyons honnêtes. Soyons tout à fait sincères et ayons une conscience pure devant Dieu. Lorsque vous lisez les 10 commandements, quelles que soient vos opinions personnelles, pourriez-vous vraiment montrer un de ces commandements qui serait mauvais? Autrement dit, quel est le commandement d'entre ces 10 que Dieu nous donnerait et qui ne serait pas vraiment fondé sur l'amour? Nous sommes, voyez-vous, des créatures. Nous ne sommes pas des créateurs. Dieu seul est créateur. Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés, Dieu nous a donné des ordres, des commandements, afin que nous puissions savoir la voie à suivre pour arriver au but pour lequel nous avons été créés. C'est pourquoi le premier des commandements, dans Exode chapitre 20, Dieu dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Alors, quel est, je vous répète, le point ici qui serait difficile pour vous et pour moi, et pour comprendre et pour observer? Vous ne pouvez pas avoir deux dieux puisqu'il y a un seul Dieu. Le même Dieu de l'Ancien Testament et le même Dieu du Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas avoir deux dieux. Dans ce cas, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est quoi ça? C'est que lorsque vous vous détourner de ce commandement, lorsque vous commencez à chercher d'autres dieux, c'est-à-dire des choses qui prennent la place de Dieu, si quelque chose vient dans votre esprit avant Dieu, devant Dieu, dans ce cas-là, vous avez deux dieux. Ça peut être un amour physique, ça peut être quelque chose que vous convoitez, ça peut être quelque chose qui vous intéresse davantage, ça peut être le temps que vous passez avec d'autres choses. Donc si, dans votre esprit, quelque chose vous préoccupe plus que la pensée de Dieu, l'adoration de Dieu, c'est que vous avez deux dieux, d'autres dieux devant la face de l'Éternel. Là encore, vous direz, mais quelle différence cela fait-il? La différence, c'est que, voyez-vous, l'Éternel Dieu qui nous a créés nous montre le chemin pour arriver au but. Tandis que tous les autres dieux que vous pouvez vous créer ne pourront jamais vous montrer la voie du salut. Ne pourront jamais vous mettre sur le chemin du salut. C'est pas possible. Une femme, un homme, des enfants ne peuvent pas vous conduire sur le salut, le chemin du salut, comme Dieu le fait, parce que Dieu vous donne exactement la façon d'y entrer. N'importe quelle possession matérielle ne peut pas vous mettre sur le point du salut. C'est pas possible. Parce que ces choses matérielles disparaissent d'un jour à l'autre. Mais Dieu est toujours là. Dieu toujours permanent, Dieu toujours éternel. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant lui. Ensuite, il dit, tu ne feras pas, Exode 20, verset 4, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont sur la terre, etc. Là, alors, verrez-vous, les gens comprennent mal. Alors, on ne peut pas faire des choses d'artistes ou des choses comme ça. Non, ce n'est pas ça que Dieu dit. Il dit, tu ne feras pas des images taillées pour te prosterner devant elles, pour les adorer. Voilà la différence. Donc, ce n'est pas un tableau qui, en principe, serait mauvais. C'est la façon dont vous regardez à ce tableau, dont vous considérez ce tableau, et que vous vous agenouillez, vous prosternez devant ce tableau. Là, ce faisant, vous créez deux dieux, encore une fois. Commencez-vous à comprendre. Je vais prendre chacun de ces commandements comme ça, très brièvement, afin de vous montrer que chaque un des 10 commandements est fondé sur l'amour. L'amour divin. Ensuite, troisième commandement, verset 7, Exode 20, dit, tu ne porteras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Là encore, je répète. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à prendre le nom de l'Éternel en vain, vous commencez à avoir d'autres idées, d'autres dieux. Et vous blâmez Dieu, de blâmer son nom. Là, je pense que c'est facile à comprendre, mais la plupart du temps, ils ne font pas attention. C'est incroyable combien de fois dans la journée, et même dans les films que vous voyez, le nom divin est massacré, est souillé, est mal employé. C'est vrai, on a des petites expressions en français ou n'importe quelle langue, et puis après, on dit des choses toujours en ayant en tête le nom de Dieu. Dieu dit, tu ne prendras pas donc le nom de l'Éternel en vain dans ta bouche. La plupart des langues, en ce bas monde, ont justement des expressions dans lesquelles le nom divin a été pris en vain. Ce faisant, nous créons encore une fois une division et nous avons d'autres dieux devant. Et voilà que certains appellent Dieu, d'autres appellent dans une autre langue et d'autres appellent par des noms ésotériques. Et voilà qu'on crée des images, on crée des dieux et on se dirige vers des croyances tout à fait étranges ou étrangères à la Bible. Je prends très brièvement ces versets parce que, je répète, le sens est que tout est créé sur l'amour. Ensuite, le quatrième commandement, Dieu dit, souviens-toi de quoi? Écoutez, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas vous souvenir de quelque chose si ce quelque chose n'a jamais été dans votre esprit. Donc, vous devez savoir quelque chose. Le fait même que Dieu vous dise « souviens-toi de quelque chose », c'est que cette chose a été dite auparavant. Et quelle est cette chose? Il dit « souviens-toi du sabbat, du repos de l'Éternel ». Incroyable. Mais aujourd'hui, pourtant, la plupart des chrétiens ne se souviennent pas du sabbat. Ou bien prennent le sabbat, le respectent à leur façon. Mais ça, c'est pas se souvenir. Lorsque Dieu a dit, souviens-toi du sabbat, il a donné un certain ordre, et il donne. Il dit, tu ne travailleras pas ce jour-là. Tu ne feras pas un travail servile. Et ensuite, il n'avait qu'à lire le reste. Tu ne feras pas d'ouvrage, dit-il. Tu respecteras ce jour de sabbat, dit-il, pour adorer l'Éternel ton Dieu. Alors, combien de gens aujourd'hui observent le sabbat pour adorer Dieu? Certes, on observe un jour de la semaine, comme dimanche, mettons. Mais d'abord, dimanche n'est pas le sabbat. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le septième jour de la semaine. Dieu parle du sabbat qui est, même littéralement parlant, sabbat signifie septième jour de repos. Donc, les gens ignorent ce commandement, observent le premier jour. Comment? En se reposant? Pas du tout. En cessant de faire leur ouvrage quotidien? Pas du tout. Ils s'amusent, du sport, tout ce que vous voulez. Autrement dit, on transgresse le jour du sabbat, et en tant que jour, et aussi en faisant des choses que Dieu défend de nous faire. Vous direz, quelle différence cela fait-il? Mais ça vient toujours au même. Si nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, nous serons heureux. Nous marcherons sur le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Mais si nous ne faisons pas ce que Dieu dit, dans ce cas-là, nous nous dévions et puis nous allons du côté opposé. Voilà la différence. Si vous ne respectez pas le sabbat, c'est que vous ne comprenez pas Dieu. C'est que vous n'obéissez pas à Dieu. C'est que vous vous dirigez ailleurs que sur le chemin qui vous mène sur la vie éternelle. Là encore, je vous dis, je prends seulement le principe de ces commandements. Bon, le sabbat aujourd'hui est souillé. Et combien de gens connaissez-vous, ou bien vous-même, avez-vous pris le temps vraiment de vérifier comment le septième jour de la semaine a été changé au premier jour de la semaine? Faites un effort. Comment? Qui a fait le changement? Quand ce changement a eu lieu? À travers la Bible, vous ne trouverez pas un seul verset, une seule excuse, une seule phrase qui vous donnerait la licence ou bien la permission, l'autorisation de changer le jour du sabbat au premier jour qui est le dimanche. Mais sautons, continuons. Ensuite, Dieu dit, en tant que cinquième commandement, verset 12, Exode 20, « Honore ton père et ta mère, dit-il, afin que tes jours se prolongent dans le pays où tu entres. » Bon, alors, mes frères et mes sœurs, je vous pose la question. Quel mal y a-t-il entre honorer son père et sa mère? Vous direz, oui, mais mon père et ma mère ne me comprennent pas. Bon, ça c'est votre affaire. Vous direz, ma mère et mon père font ce qui n'est pas juste. Ça, c'est pas votre excuse. En tant qu'enfant, vous devez honorer votre père et votre mère. S'ils suivent un mauvais chemin, vous n'avez pas besoin de suivre le mauvais chemin. S'ils font des choses qui ne sont pas justes, vous n'avez pas besoin de faire ce qui n'est pas juste. Mais vous les honorez en tant que parents. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Où sont les familles? La femme ne respecte pas son mari. Les enfants ne respectent pas les parents. Les parents ne s'intéressent pas aux enfants. Où est l'honorer les uns les autres? Comme résultat, regardez ce que vous avez. Vous avez un monde divisé. Vous avez des familles divisées. Comme je vous ai souvent dit, et je répète, plus de crimes sont commis au sein d'une famille que partout ailleurs. Un mari, une femme, les enfants abattent les membres de la famille. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons transgressé le cinquième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et ensuite, Dieu nous promet « Afin que tes jours soient prolongés ». Je répète, mes frères et mes sœurs, chacun de ces commandements prendrait un sermon. Je le ferai peut-être un jour, parce que ça vaut la peine. Mais je vous donne ici un sens, parce que le sujet aujourd'hui de mon sermon, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'il n'y a pas une différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Que cette différence, c'est dans l'esprit des gens, peut-être dans votre esprit, et il est grand temps que vous puissiez vous réveiller. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui ait donné des commandements différents. Il n'y a qu'un seul Dieu dont les commandements sont fondés sur l'amour. Ensuite, Dieu dit au verset 13, toujours Exode 20, ces mêmes commandements se trouvent du reste dans Deutéronome 5, mais ça c'est secondaire. Alors Dieu dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous rendez-vous compte que le premier enfant né sur cette terre, Caïn, a tué son frère. Imaginez, le premier enfant né dans ce monde a tué son frère. Pourquoi? Parce que Satan, le diable, l'a incité, d'accord. Mais le fait est que déjà, dès le commencement, les hommes se sont détournés des ordres divins. Regardez autour de vous. Je sais pas, vous savez, j'ai pas cherché académiquement, mais on dit qu'il y a eu, depuis le commencement de l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui, environ 14 ou 15 000 guerres. Je ne sais pas. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous avons eu des guerres à travers les siècles. On n'a pas eu un seul siècle où il n'y ait pas de guerre. Les gens se tuent. Alors que je vous parle, vous savez, chaque matin, j'ai peur de tourner la radio pour écouter les nouvelles, car je sais qu'on aura encore de nouvelles d'assassinats, de morts, de guerres. Ça fait de la peine. Vous tournez le bouton de la radio ou bien de la télévision, c'est toujours la même chose. Alors que je vous parle, nous avons de par le monde plusieurs dizaines de guerres entre les nations. Et c'est triste. Pourquoi? Parce que les gens n'obéissent pas au commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Mais vous direz, « mais il veut me tuer si je ne le tue pas ». C'est là où vous faites confiance à Dieu. Vous laissez Dieu agir. Vous laissez Dieu faire les choses. Vous faites votre part et vous verrez que Dieu vous protégera. Humainement parlant, on ne comprend pas ces choses-là, mais il faut quand même faire confiance à Dieu. Laissez Dieu faire. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Si quelqu'un est après vous, eh bien, vous mettez à genoux devant Dieu et vous priez Dieu et Dieu vous protégera. J'ai des exemples, je pourrais vous donner. Des gens où des femmes étaient vraiment poursuivies par un homme. Je connais un exemple surtout. La femme, elle se voyait prête à être attaquée. Elle s'est mise à genoux. Et Dieu, écoute, viens, j'ai besoin de toi. L'homme, l'agresseur, était figé. Il ne pouvait rien faire. Tout d'un coup, il a quitté, il est parti. Un exemple, direz-vous, non, ce n'est pas un exemple. Ces choses-là arrivent souvent si vous faites confiance à Dieu. Cette femme-là était absolument convaincue que Dieu l'aiderait. Dieu, écoute, tu es, arrête cet homme. Elle s'est mise à genoux. L'homme a dû s'en aller. Voyez-vous, cette question, cette façon d'agir, avoir foi en Dieu vous donne la compréhension comment et pourquoi chacun des 10 commandements est fondé sur l'amour. Ensuite, il dit à Dieu au verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » Alors, c'est un peu fort, non? Du reste, ce que je vais faire dans ce sermon, je vais prendre ce 7e commandement, je vais vraiment analyser davantage. Mais commettre l'adultère, c'est d'agir de façon à avoir des rapports avec d'autres personnes du même sexe ou même de sexe différent, parce qu'aujourd'hui, on a transgressé les lois. Et ce faisant, voyez-vous, vous transgressez les lois divines. La plupart des maladies, comme vous le savez, sexuelles surtout, sont dues parce qu'on commet l'adultère. Mais ça, je dis, dans quelques instants, je vais en parler. Donc, aujourd'hui, le monde ne fait que commettre l'adultère. Mais continuons. Ensuite, verset 15, tu ne déroberas point. C'est le 8e commandement. Autrement dit, tu ne voleras point. Là, encore une fois, qu'on regarde autour de vous. Écoutez, pourquoi sommes-nous si malheureux aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il tellement de différences entre les classes humaines? C'est que, voyez-vous, on vole. Les uns volent les autres. Les marchands, les commerçants, l'ouvrier, le patron. Cette honnêteté dans le travail n'existe presque pas. Alors on vole. Dans les grands magasins, voyez-vous, ils ont déjà, paraît-il, 10 ou 15% qu'ils mettent de côté chaque année parce qu'ils pensent que 10 ou 15% de leurs marchandises seront volées. Incroyable. Je me rappelle l'histoire d'un homme qui a été arrêté parce qu'il a volé 100 dollars, 100 euros, mettons, je ne sais pas. Mais il a dit, mais pourquoi vous avez fait? Il dit, oui, écoutez, cet homme-là, il est tellement riche que je prenne 100 dollars ou quoi, ça n'a pas d'importance pour lui. Pour moi, ça vous fait vivre. Raisonnement humain. Le fait est que, voyez-vous, si vous faites votre part honnêtement, vous travaillez, vous serez récompensé, vous n'aurez pas besoin d'envier ou de prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Là encore, je répète, ce sont des commandements faciles à comprendre et aussi très faciles à trouver des excuses pour transgresser ces commandements. C'est incroyable comme l'esprit humain trouve des excuses pour transgresser les commandements de Dieu. Pour dire, voilà pourquoi je n'obéis pas. Écoutez, moi, je n'ai pas d'argent, celui-ci a des milliards et des milliards, pourquoi je ne peux pas lui voler quelques centimes? Voilà. Ça, c'est esprit humain. Dieu a dit, tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas. ce monde dont nous vivons, inspiré par Satan, est fondé sur de tels principes mauvais. En disant que si je prends un peu du riche, eh bien le riche n'en manquera pas grand-chose et moi j'en aurai besoin. Et ce genre d'attitude crée justement une atmosphère comme celle que vous avez aujourd'hui. Ensuite, neuvième commandement, Dieu a dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Regardez voir ça. Nous disons, tu ne mentiras pas. Bon, c'est juste, tu ne mentiras pas. Mais combien de fois par jour, dans la journée, vous pouvez dire que vous ne mentez pas? Ah oui, je vous pose la question, voyez-vous, ce faisant, vous transgressez les lois, ce faisant, vous créez des problèmes, et voilà que vous dites, pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Chaque fois que vous ouvrez votre bouche, soyez sûr que vous dites la vérité. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, soyez sûr que vous n'attaquez pas votre prochain. C'est bien marqué votre prochain. C'est pas quelqu'un dans l'église uniquement. C'est pas un chrétien uniquement. C'est pas un membre de la famille uniquement. C'est ton prochain, ton voisin, l'homme que vous voyez dans la rue. Cet homme qui marchera peut-être vous dira, tiens, mais qui est celui-ci? Peut-être vous le regardez avec mépris. Dieu a dit, tu ne mentiras pas, quel que soit le cas. Aujourd'hui, je répète une fois encore, le commerce, les affaires, la publicité, mais tout est basé sur le mensonge. Sur des choses qu'on vous fait croire, on vous force à croire à quelque chose qui n'est pas réellement le cas. En fin de compte, dixième commandement, alors là, je n'ai rien à dire. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas. Ensuite, il donne des détails. Plus tard, je répète, je prendrai ce commandement en détail. Mais lorsque vous regardez vraiment, vous examinez votre vie, vous verrez que vous convoitez la plupart du temps. Vous convoitez la santé de quelqu'un qui est en meilleure santé que vous. Vous convoitez quelqu'un qui est plus riche que vous. Sa voiture, sa maison, ses possessions. Vous convoitez quelqu'un qui a une meilleure femme que vous, ou bien un meilleur mari que vous, ou meilleurs enfants que vous avez. Autrement dit, c'est beau d'admirer de la bonne façon, de respecter, de dire « je suis content pour vous ». Pouvez-vous vous dire vraiment « je suis tellement content que vous soyez béni à quelqu'un, que vous ayez une bonne famille, de beaux enfants ». Vous diriez « oh, j'aurais voulu avoir ». Bon, ce genre de pensée n'est pas mauvaise, à la rigueur. Mais ne convoitez pas. La publicité aujourd'hui est fondée sur la convoitise. Tout ce qu'on vous présente en tant que publicité, c'est d'attirer vos sentiments charnels, vos émotions, la cupidité. Donc, vous convoitez. Alors, où en sommes-nous? C'est très simple. Chacun des 10 commandements dans notre vie, la vôtre et la mienne, est presque chaque jour transgresser. Parfois volontairement, parfois, souvent peut-être involontairement. Nous devons donc faire un effort afin que nous puissions marcher dans la voie divine, nous examiner chaque jour pour voir si vraiment nous faisons des progrès vers le respect des commandements de Dieu. Pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, ces 10 commandements aujourd'hui ne seraient plus valables? Montrez-moi, comme je vous ai dit, un seul commandement ici qui ne soit pas bon pour vous. Montrez-en. Vous n'en trouverez pas. Voilà pourquoi, maintenant, revenons au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, qui n'est pas différent, je répète, de l'Ancien Testament, fait allusion à ces nouveaux commandements, ou à ces anciens commandements. Il n'y a pas de nouveaux commandements dans ce sens que ce sont différents. Ce sont les mêmes commandements qui, à la rigueur, dans le Nouveau Testament, non pas seulement sont toujours valables, mais encore prennent une tournure spirituelle. C'est la seule différence, c'est pas une différence, c'est un progrès, je dirais, une progression. Regardez voir dans le Nouveau Testament, prenons Romains chapitre 7. L'apôtre Paul ici parle justement des commandements de Dieu et il montre ce que c'est que la loi, Parce que, voyez-vous, tout est ici basé sur la loi ici. Il parle de la loi. Ensuite, après avoir parlé de ces lois, dans Romains chapitre 7, regardez ce qu'il dit. Verset 12. Romains 7, 12. La loi est sainte. Sainte. Les commandements que je viens de vous citer, c'est la loi. La loi est sainte, dit-il. C'est Paul qui parle. Paul, l'apôtre chrétien, que les chrétiens aujourd'hui reconnaissent en tant qu'apôtre du Christ. Et le commandement, dit-il, est saint, juste et bon. Allez voir. C'est fort. Les commandements sont justes et bons. Ensuite, il dit, verset 14, nous savons en effet, verset 14, chapitre 7, Romains, que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Mais je suis charnel, etc. Commencez-vous à comprendre. Dans Matthieu chapitre 19, puisque nous parlons de ces lois, afin que vous puissiez vraiment comprendre où nous en sommes, ici nous avons affaire à nouveau au Nouveau Testament, à nouveau au Christ, à nouveau ce que le Christ dit en ce qui concerne les commandements de l'Ancien Testament. Matthieu 19, un cas typique. Voyez-vous, en tant que chrétien, mes frères et mes sœurs, prenez ces exemples en tant que base. Et dites, bon, je vais vraiment croire en Dieu. Ne dites pas, je crois en Dieu, puis vous faites les choses comme ça vous plaît. Non. Si vous croyez en Dieu, vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Dans les deux testaments. Et mon but aujourd'hui, c'est de vous prouver qu'il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Ici, nous avons le Christ qui parlait aux gens, qui leur enseignait. Voilà un exemple frappant, Matthieu 19, verset 16. Alors que le Christ parlait, voici un homme s'approche de lui et dit, « Maître, au moins il montre cet homme-là du respect envers le Christ, il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Voilà, déjà c'est intéressant. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent avoir la vie éternelle. Non, ce n'est pas le cas, nous n'avons pas la vie éternelle. La vie éternelle est la promesse que nous avons, en fin de compte, si nous suivons le chemin que le Christ a tracé devant nous, à travers les commandements. Donc cet homme au moins avait la compréhension. Il pose au Christ la question suivante, que dois-je faire pour arriver à la vie éternelle? Alors, qu'est-ce que le Christ a dit? Ben, écoute, tu n'as pas besoin, tu as déjà la vie éternelle. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus, écoute, t'en fais pas, Dieu t'aime, et puis fais tout ce que tu veux, et puis tu arriveras à la vie éternelle. Non, le Christ n'a pas dit cela. Le Christ a dit, pourquoi me dis-tu bon? Voyez-vous, là encore, les gens comprennent mal. Le Christ est le Fils de Dieu, le Christ est bon, mais lorsqu'il était sur cette terre, il était en chair humaine. Et en chair humaine, il n'y a pas bon, entre guillemets, comme nous entendons, il n'y a que Dieu qui soit bon. Voilà pourquoi le Christ, en tant qu'être humain, il a dit, ne m'appelle pas bon. Il était bon, mais pas dans l'esprit que cet homme comprenait. Il dit, il n'y a qu'un seul homme, et qu'un seul qui soit bon, c'est Dieu. Ensuite, il dit, si tu veux entrer, regarde voir ça, on ne peut pas être plus clair, verset 17. Oui, Matthieu 19, 17. Si tu veux entrer dans la vie, quoi? Fais ce que tu veux? Non. Observe les commandements. Incroyable. Voyez-vous, nous sommes chrétiens. Nous pensons aimer Dieu. Nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que Dieu nous montre la voie. Bon, voilà la voie. Dieu dit, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Eh bien, moi, je ne sais pas, je ne connais pas les commandements. Vous savez, ça me rappelle un jour, j'étais à Paris. J'ai fait une conférence à Paris. Et justement, j'ai parlé que nous devons observer les commandements de Dieu. Quelqu'un, après la conférence, m'a dit, « Monsieur Appartient, mais où est-ce que je trouve les commandements de Dieu ?» Intéressant. Il était honnête. Il n'avait jamais ouvert la Bible. Et il avait seulement entendu parler des commandements. Il me dit, « Où est-ce que je les trouve? Est-ce que je peux vraiment trouver quelque part les commandements de Dieu ?» Prenez votre Bible, mes frères et mes sœurs. Ouvrez votre Bible. Et partout, ce sont les commandements de Dieu, mais ici, vous avez clairement le Christ qui identifie les 10 commandements d'une façon certaine. Car d'abord, le Christ a dit à cet homme qui posait la question, où sont les commandements? Quels sont ces commandements? Le Christ a dit, verset 18, Matthieu 19, tu ne tueras point. Autrement dit, il prend maintenant une partie des commandements qui ont rapport avec les êtres humains, entre les êtres humains. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ce que nous avons vu. Tu ne déroberas point. C'est ce que nous avons vu. Et tu honoreras ton père et ta mère. Incroyable. Il pouvait dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que l'homme a dit? L'homme a dit, mais j'ai observé tout ça depuis mon enfance. Le Christ a dit, si tu veux vraiment entrer dans la vie éternelle ou bien être parfait, vends ce que tu possèdes dans l'eau pauvre, tu auras un trésor dans le ciel. Autrement dit, ce n'est pas une question d'observer les commandements. C'est une question, après ça, à être prêt à aimer votre prochain comme vous-même. Et là où le sacrifice commence. Cet homme-là ici, voyez-vous, il était très riche. Il ne voulait pas se séparer de ses richesses. Alors, il a observé les commandements de Dieu dans la lettre, mais lorsqu'il s'agit de se sacrifier, il n'était pas prêt. Ensuite, on n'avait qu'à dire, voir comment le Christ a comparé l'attitude de cet homme, qui peut être la vôtre et la mienne. Commencez-vous à comprendre qu'il n'y a pas de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10. Ici, nous avons affaire à l'histoire des Israélites. Oh, l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament, d'accord. Mais regardez voir ce que Paul écrit. 1 Corinthiens 10. Il dit, frère, dit-il, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne nos pères, c'est-à-dire les Israélites là. Ils sont tous passés, dit-il, à travers la mer Rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont été baptisés, dit-il, en Moïse, etc. Et ensuite quoi? Verset 4. Ils ont bu, dit-il, un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Regardez-moi ça. Le rocher physique, et aussi le rocher spirituel. Le Christ apparaissait, le Christ l'Éternel, Dieu, à eux dans une nuée. Le matin, le soir, la nuit, d'une façon différente. Mais le fait est que, n'est-ce pas, ces gens suivaient cette nuée. Ensuite, il y avait le rocher. Ce rocher leur a donné à manger et à boire. Et l'apôtre Paul dit, verset 4, ce rocher était Christ. Commencez-vous à comprendre? C'est le même Dieu. Le même Dieu, le Christ, était le rocher dans l'Ancien Testament qui a donné à boire et à manger aux Israélites, qui a permis à eux de passer par la mer Rouge et quand même ne pas perdre leur vie. Commencez-vous à comprendre? Dans Hébreux chapitre 13, je sais que je saute des versets, mais je veux que vous puissiez comprendre. C'est facile et pourtant c'est difficile. C'est facile parce que on peut pas tordre le sens. C'est difficile parce que la nature humaine est toujours en but. Nous voulons faire les choses à notre tête. Nous voulons avoir ce que nous voulons à notre façon. Nous voulons gagner quelque chose à notre façon. Nous voulons avoir la vie éternelle à notre façon, pas à la façon divine. Voilà la différence. Vous ne pourrez jamais arriver à la vie éternelle à votre façon. Vous avez beau essayer, mais vous arriverez sûrement à la vie éternelle à la façon divine, laquelle est toujours fondée sur les commandements, lesquels sont fondés sur l'amour pur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Hébreux chapitre 13, disais-je. Nous parlons du Christ, nous parlons de Dieu. Regardez ce que Hébreux 13, 8 déclare. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu, éternellement. Alors, comment est-ce qu'on peut s'approcher davantage de ce Dieu? Maintenant, revenons, je fais exprès à l'Ancien Testament. Voyez-vous, je prends les deux testaments pour vous montrer. Deutéronome 4, on parle du Christ, c'est le même Dieu. Le Christ du Nouveau Testament n'est pas différent de l'Éternel de l'Ancien Testament. Deutéronome 4, verset 1. Prenons verset 1. Dieu dit, Israël, écoute les lois, dit-il, les ordonnances de Dieu. Je vous enseigne aujourd'hui. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. Ici, c'est un pays physique où les enfants d'Israël entraient. Vous et moi, nous avons une promesse pour entrer dans un pays spirituel, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, ça c'est ce parallèle. Ensuite, il dit, en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne les écrits bibliques, regardez ce qu'il dit. Vous n'ajouterez, verset 2, Deutéronome 4, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Wow. Voilà. Ce que vous pensez ne vaut pas grand-chose. Ce que je pense ne vaut pas grand-chose. Je peux changer les commandements à ma façon, mais ça ne vaut rien. Nous devons prendre la Bible telle qu'elle est. Regardez voir dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul fait allusion à cela à sa façon. Toujours, évidemment, sous l'inspiration divine. Parce que c'est Dieu qui a inspiré. Ce ne sont pas les hommes qui ont écrit de leur-même. Les hommes ont écrit, certes, ce que vous voyez, mais inspiré par Dieu. Paul écrit, 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture, toute, pas seulement une partie, pas seulement les 10 commandements qui sont clairs, mais tous les autres commandements, toutes les autres lois, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu, voilà. Jean a écrit sur l'inspiration divine. Moïse a écrit sur l'inspiration divine. Les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie ont écrit sur l'inspiration divine. Les apôtres, Paul, Pierre, Jean, Jacques, ont écrit sur l'inspiration divine. Donc, toute écriture est l'inspiration de Dieu, utile pour quoi? Pour enseigner. C'est ce que je vous fais. Et j'apprends aussi moi-même, parce que c'est Dieu qui m'enseigne. Pour convaincre de quoi? Que Dieu est Dieu. Que Dieu est réel. Que Dieu nous aime. Que Dieu veut que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Pour corriger. Corriger quoi? Corriger notre attitude. Afin que nous changions. Afin que nous devenions comme il veut que nous devenions. Pour instruire dans la justice. Regardez, on ne peut pas être plus clair. Les Écritures nous sont données, que l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament, pour que nous puissions être instruits dans la justice. Justice divine, et non pas justice humaine. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Autrement dit, afin que nous puissions arriver à notre but final. Intéressant, ne pensez-vous pas? Revenons maintenant à l'Apocalypse, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Et là, regardez voir comment Dieu a permis à l'apôtre Jean de conclure l'Apocalypse. On parle des Écritures, on parle des commandements de Dieu. Dieu a dit, tu ne changeras rien de ce que je te dis, tu n'ajouteras rien. Bon. Regardez voir ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Apocalypse, chapitre 22. Toujours sous l'inspiration divine, en citant Dieu, verset 18. Apocalypse 22, verset 18, dit, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. » Des fléaux écrits dans ce livre. Si quelqu'un en retranche quelque chose, des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie à Vicente. Alors, où en sommes-nous? Je vous ai montré dans l'Ancien Testament exactement le même commandement que vous trouvez ici à la fin du livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Et c'est basé sur quoi? Sur les commandements qui sont basés à leur tour sur l'amour de Dieu, l'amour dont je vous parle. Je fais un grand détour, je sais, mais ce détour est nécessaire afin que vous puissiez comprendre exactement de quoi nous parlons. Je ne sais pas si je pourrais même commencer le sujet que j'ai en tête, mais je veux que vous puissiez vraiment, une fois pour toutes, réaliser qu'il n'y a pas de différence entre les neuf des deux testaments, que l'un clarifie l'autre. Le Nouveau Testament, la seule chose qu'il ajoute, c'est que nous devons observer cette volonté divine, ces commandements, et dans la lettre, et dans l'esprit. Continuons. Je sais que vous aurez des questions, dire oui, mais toutes ces lois de sacrifice, j'en parlerai. Si je ne peux pas terminer aujourd'hui, je terminerai la semaine prochaine. Autrement dit, je veux que vous puissiez savoir quels sont les commandements qui, à la rigueur, ne seraient plus valables. Je dis bien à la rigueur parce que le principe reste toujours valable. Mais continuons toujours avec le Nouveau Testament et qui groupe donc les commandements de l'Ancien Testament. Prenons à nouveau le Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, à cette époque-là, je le répète, les gens connaissaient plus ou moins, peut-être mieux que nous aujourd'hui, les Écritures. Il n'y avait pas cette confusion qu'il y a aujourd'hui. Et voilà que quelqu'un s'approche du Christ et lui pose à nouveau un commandement. Ce n'est pas un commandement, je dirais, truqué, mais peut-être la plupart du temps, lorsque les gens parlaient au Christ, c'était pour le piéger. Ils veulent trouver dans les paroles du Christ quelque chose qui leur permettrait, à la rigueur, de blâmer le Christ, de le juger. Alors, dans Matthieu chapitre 22, les pharisiens, vous savez, les pharisiens, vous n'avez qu'à lire la Bible, étaient des gens qui se vantaient de leur connaissance. Les pharisiens pensaient connaître la loi, et ils le connaissaient. Les pharisiens pensaient qu'ils observaient les lois mieux que n'importe qui, à leur façon. Alors, ils étaient fiers d'eux-mêmes. C'était des gens qui étaient hypocrites, comme le Christ a dit. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, les pharisiens, verset 34, Matthieu 22. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris que Christ avait réduit au silence les Sadducéens, voilà encore notre secte, se rassemblèrent autour de lui, et l'un d'eux, docteur de la loi, autrement dit, connaissait bien la loi, lui fait cette question. Alors, quelle est la question? Maître, quel est le plus grand commandement? Voilà. Une question, vous savez, piège. Quoi que le Christ dise, on prendrait la déclaration du Christ, on y verrait des fautes. Parce que là, vous mettez le Christ vraiment devant un dilemme. Je vous ai montré les 10 commandements. Je vous ai montré que le plus grand, évidemment, c'est d'adorer Dieu, d'accord? Mais il y a aussi d'honorer vos parents, tout ça, ce sont des commandements importants. Donc, comment est-ce que vous pouvez mettre quelqu'un à l'épreuve ainsi? Mais c'est le Christ qui a donné les 10 commandements. Donc, ce serait juste, et c'est juste, qu'on lui pose cette question en disant, quel est le plus grand commandement? Vous savez, la façon dont le Christ répond dans la Bible aux questions des gens, c'est fascinant, pour ainsi dire. C'est incroyable. Évidemment, c'est Dieu, il sait comment répondre, il sait comment dire aux gens la vérité, comment l'expliquer. Le Christ ici explique d'une façon merveilleuse quel est le plus grand commandement. Il explique à cet homme, à ce pharisien, qui voulait le piéger, voilà la réponse. Chaque fois que le Christ donnait une réponse, les gens ne pouvaient pas discuter avec lui parce que c'était comme échec et mat. Parce que c'est le Christ qui les mettait dans le coin. Alors le Christ a dit, tu veux savoir quel est le plus grand commandement? Verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Autrement dit, lorsque je vous ai cité les 10 commandements, je vous ai montré les 4 premiers commandements qui montrent comment adorer Dieu, comment respecter Dieu, comment aimer Dieu. Donc le Christ a groupé les 4 premiers commandements en te disant tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ensuite, je vous ai montré que les 6 autres commandements dictaient les rapports de l'homme entre hommes. Alors le Christ, regardez voir comment il dit. Le Christ n'a pas dit voilà le deuxième commandement. Regardez voir comment il répond. Il dit tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur. C'est le premier et le plus grand des commandements. Bon. Et le second qui lui est quoi? Semblable. C'est quoi semblable? Ça veut dire semblable, c'est comme le premier. Si quelque chose est semblable à quelque chose d'autre, c'est la même chose. Donc, voyez-vous, il ne sépare pas. Il prend les 10 commandements en un seul. Et le seul qui est divisé en quelque sorte, aimer Dieu d'abord, ensuite aimer ton prochain, il les met ensemble. Nous arriverons à quoi? Nous arriverons au sujet que je viens de vous traiter. Je dis, tout est basé sur l'amour. Principalement l'amour de Dieu. L'amour du prochain doit être guidé par l'amour de Dieu. Si vous avez compris ceci, vous avez compris que le Christ, dans un seul verset, il vous donne une instruction fantastique. Que l'amour de Dieu consiste à garder le commandement de Dieu. Que l'amour de Dieu consiste à aimer Dieu, premièrement, et aussi notre prochain sans faire une différence. Vous savez quoi? Lors de mon ministère, j'ai souvent parlé aux gens, et j'ai vu des gens qui sont honnêtes, à leur façon, qui cherchent la vérité. Lorsque vous leur montrez tout ça, ils comprennent un petit peu, ils comprennent à leur façon, d'une seule oreille. Il ne veut pas entendre le reste. Tellement de gens vraiment sont sincères, ils cherchent la vérité. Ils me disent, monsieur Appartien, comment est-ce qu'on peut savoir exactement la différence entre ce que les gens prêchent ou disent, et ce que, parce qu'il y a tellement de différences entre les enseignements humains, c'est vrai. Mais prenez votre Bible, comme je viens de le faire maintenant, et vous verrez que si Dieu vous dit quelque chose, croyez-le, et laissez de côté les arguments humains qui peuvent être différents de ce que je vous dis maintenant et qui sont dans la Bible. Donc, vous ne devez pas avoir un Dieu devant la face de l'Éternel. Il n'y a pas deux dieux. L'Ancien Testament a le même Dieu que le Nouveau Testament. C'est le Christ. Continuons. Après avoir dit que nous devons aimer Dieu, premièrement, et ensuite, sur la même ligne, aimer notre prochain, la question se pose. Comment est-ce qu'on peut aimer notre prochain lorsque notre prochain est cruel, lorsque notre prochain est mauvais, lorsque notre prochain n'observe pas le commandement de Dieu, lorsque notre prochain vraiment nous attaque? Autrement dit, lorsque notre prochain devient notre ennemi, voilà la question. Comment est-ce que je peux vraiment aimer quelqu'un qui veut me tuer, qui prend ma famille, ma femme, mes enfants, je ne sais pas qui. Vous savez, je me rappelle l'histoire encore d'un soldat français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, moi, je ne serai jamais chrétien si la condition et que je doive aimer mon prochain. Il dit, les ennemis, je ne veux pas mentionner la nation, ont tué ma famille, il dit, je ne pourrai jamais aimer ses ennemis. Si quelqu'un a tué votre femme, vos enfants, vous ne pouvez pas l'aimer. Ils ont tué votre famille. Alors il a dit, cet homme, si, selon la Bible, je dois aimer mon ennemi ou mes ennemis, je ne serai jamais chrétien parce que je ne pourrai jamais aimer ceux qui ont tué mes enfants et ma femme. Ça, humainement parlant, ça sonne comme juste. Comment pouvez-vous aimer quelqu'un qui a tué vos enfants? Et pourtant, le Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Christ a dit, Matthieu 5, tu aimeras tes ennemis. Voilà. C'est dur. Humainement parlant, ça n'a pas de sens, je dirais même. Et pourtant, le Christ a dit, Matthieu, prenons, ça vaut la peine, parce que c'est une partie du serment. Je fais des détours, mais c'est une partie de ce que nous disons. Je vous ai répété il y a quelques instants, en disant que ce que les 10 commandements disent dans l'Ancien Testament sont répétés dans le Nouveau Testament avec l'accent sur le côté spirituel des commandements. Dans Matthieu 5, dans Matthieu 6, dans Matthieu 7, le Christ prend les mêmes 10 commandements et nous montre qu'il y a une différence. La seule différence, dit-il, c'est que non pas seulement il faut respecter la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Et il montre, si par exemple, tu ne commets pas d'adultère physiquement parlant, tu peux le commettre dans ton esprit. Et il dit, c'est la même chose. Il dit, si tu ne tues pas quelqu'un physiquement parlant, mais tu lui en veux du mal, eh bien, tu as presque commis l'acte de le tuer. Voilà la différence. Cette différence est une nuance spirituelle. Je vous dis ceci parce qu'une fois que vous comprenez ceci, vous verrez que ce que nous appelons le sermon sur la montagne donne des précisions justement comment observer les lois divines avec leur intention spirituelle. Alors, puisque nous parlons d'aimer son prochain comme soi-même, humainement parlant, je sais, écoutez, je suis tout aussi humain que vous. J'ai les mêmes sentiments que vous, les mêmes tentations que vous. Donc, je ne vous parle pas en tant que quelqu'un qui soit supérieur, au contraire. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me maîtriser, j'ai besoin de faire les mêmes efforts que vous pour arriver au but. Le Christ a dit, verset 43, Matthieu, chapitre 5, oui, Matthieu 5, verset 43, il dit, 44, moi, je sais pas. Bon, tout la même chose, mais je vais prendre, oui, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était la façon de comprendre lors de l'époque ancienne. Non pas qu'il y avait cette loi, parce que vous ne trouvez pas cette loi dans l'Ancien Testament, mais la façon dont les gens agissaient, c'était ils détestaient leurs ennemis. Les chrétiens, moi, verset 44, Matthieu 5, moi je vous dis. Alors, c'est le même Dieu qui vous donne maintenant le sens spirituel de ce commandement. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est l'amour dont je vous parle. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Écoutez, c'est pas possible. Comment est-ce que je peux maudire que c'est quelqu'un qui a tué ma famille? Moi, voyez-vous, humainement parlant, ça n'a pas de sens. Et pourtant, le Christ ne ment pas, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est possible? Est-ce vraiment possible de faire cela? On peut vraiment agir ainsi? Prier pour quelqu'un qui a tué ceux qui me sont chers? Bénir, les bénir? Comment? Comment est-ce que je peux faire? Et pourquoi? Bon. Le comment, la Bible nous dit comment. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Mais la Bible dit la raison pour laquelle nous devons agir ainsi. Il dit, afin que vous soyez fils, verset 45, de notre Père qui est dans les cieux. Mes frères et mes sœurs, le but de la vie, c'est d'arriver à la vie éternelle. Ce que nous avons aujourd'hui, vous et moi, c'est physique, c'est temporaire. Ça ne dure que l'espace d'un matin, comme les fleurs des champs. Donc, c'est réel, on ne peut pas nier, mais demain, c'est fini. Donc, les êtres humains que vous avez, ces amours, entre guillemets, que vous avez, charnellement parlant, c'est l'espace d'un matin. Ça disparaît. Donc, le Christ, maintenant, nous montre la vie éternelle, où tout est réel, tout est permanent. Donc, si vous avez perdu, donc, des membres de votre famille à cause de la cruauté d'un ennemi, bon, c'est très difficile, c'est affreux, c'est terrible, mais Dieu est juste. Dieu prendra soin de ça. Mais entre-temps, toi, en tant que quelqu'un qui doit être dans le royaume de Dieu, bénis-le. Bénis-le ne signifie pas, écoute Dieu, donne-lui tout ce dont il a besoin. Non. Vous savez comment vous pouvez bénir votre ennemi? Comment vous pouvez prier pour votre ennemi? C'est très facile. Vous dites à Dieu, écoute Dieu, tu le connais. Tu sais ce qui est bon pour lui. Fais-le afin que lui, il apprenne sa leçon. Dieu punit à sa façon. Dieu sait comment redresser quelqu'un. Vous-même, vous n'avez pas des sentiments hostiles. Je sais, on ne peut pas l'aimer comme vous aimez un ami intime. Ça, je sais, je ne parle pas de ça. Mais en ce qui concerne donc les malédictions, vous dites, Dieu, tu prends soin de lui. C'est ton affaire, ce n'est pas la mienne. Ce faisant, vous verrez. Vous verrez des miracles qui arriveront. Vous verrez votre attitude. Vous verrez les bénédictions que vous aurez. Vous savez, comme je dis, je n'ai presque pas commencé le grand sujet que j'avais en tête. Autrement dit, vous expliquer la différence entre les deux alliances. Je ferai ça la prochaine fois. Expliquer l'ancienne alliance et la nouvelle, toujours basée sur ce que je vous dis aujourd'hui, parce que ça, c'est la base. Il faut que vous compreniez ceci. Une fois que vous avez compris ceci, lorsque je parlerai de des alliances, vous aurez une meilleure idée. Je vous donnerai les exemples dans l'Ancien Testament. Les commandements de Dieu que les gens disent ne sont plus valables. Je vous montrerai que non, ces commandements sont aussi valables aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2000 ans. Mais avant de terminer, laissez-moi au moins terminer par un autre verset qui se rapporte à ça. D'une façon générale, les gens disent « j'aime Dieu, mais je ne peux pas aimer mon prochain ». Eh bien, ce raisonnement n'est pas valable devant Dieu. Je sais, c'est difficile. Si vous aimez Dieu, la condition c'est que vous deviez aussi aimer votre prochain. Sans cela, vous ne pouvez pas aimer Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le Christ a dit. C'est ce que le Christ a dit dans Matthieu 5 en disant « tu prieras pour ton ennemi ». L'apôtre Jean était très proche du Christ. Regardez ce qu'il écrit dans sa première épître, verset chapitre 4. Jean, 1 Jean, chapitre 4. Regardez voir ce qu'il dit. C'est très clair. Bien-aimé, dit-il, verset 7. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. On parle maintenant de cet amour divin, supérieur, dont je vous parle. Et que quiconque aime est né de Dieu, autrement dit engendré de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers tous, envers ce que Dieu a envoyé. Et tout cela, donc, je paraphrase maintenant, voyez-vous, nous devons avoir ce sentiment que le Christ avait. Ensuite, il ajoute quelque chose un peu plus loin. Et c'est ça, c'est ce verset que je cherche. C'est marqué verset 20, 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit, vous dites, moi je dis, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Menteur, mais nous voulons voir que le mensonge était un des... briser l'un des commandements de Dieu, le 9e. Donc, si vous dites que vous aimez Dieu, mais pas votre prochain, vous mentez. Autrement dit, vous revenez au premier plan. Non, c'est celui qui n'aime pas son frère, verset 20, qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Ensuite, il ajoute, verset 21, et nous avons en de lui ce commandement, c'est un commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà où nous en sommes. La prochaine fois, je reprendrai ce sujet. Je reprendrai en répétant quelques-uns de ces conseils que je vous ai donnés, ou bien de ces paroles. Ensuite, je vous montrerai la différence, si différenciée, entre les deux alliances. Entre-temps, mes frères et mes sœurs, tâchez de comprendre que l'amour de Dieu est la base de votre existence. Et Dieu veut que vous soyez un jour avec lui dans la même famille, avec le Christ, que vous ayez vraiment compréhension de cet amour divin que le Christ a eu lorsqu'il est venu sur cette terre pour donner sa vie pour vous et pour moi, afin que nous puissions un jour partager leur gloire. Quelle récompense pourriez-vous vraiment espérer? Mieux que cela.